Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous nous retrouvons dans nos lectures en liberté pour la suite de ce récit de Charles-Juliette Lambeau. Les marches de bois vermoulu craquent quand il monte en chair. Les cheveux blonds, les joues creuses, un regard éteint. Qu'a-t-il compris? Que sait-il? Saura-t-il répondre à certaines questions qui te taraudent? Aller un jour frapper à sa porte, mais à quoi bon? Ces cloisons invisibles qui rendent impossible toute rencontre. Il garde quelques secondes le silence, approche une feuille près de son visage, puis commence à lire d'une voix terne et étouffée. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se renier soi-même. Tu t'interroges sur la signification de ces mots que tu as du mal à comprendre. Mais il explique. Il faut s'oublier, ne pas penser à soi. Il faut quitter sa maison et partir pour vivre une vie plus haute que celle que nous menons habituellement, engluée que nous sommes dans le quotidien. Déjà, tu n'écoutes plus partir, partir. En seras-tu capable? Tu te vois marcher pendant des jours et des jours, longer des champs, traverser des forêts. Entraîné par la cohorte, tu avances avec lenteur, courbé sous ta croix. Le colporteur chemine à ton côté, suivi par son mulet. Tu ne sais où vous allez, mais cela importe peu. Simplement marcher, marcher, aller toujours plus loin sans jamais s'arrêter. Pour t'éloigner de ce village, fuir ce qui t'oppresse, t'enferme, te tient comme dans une tenaille. En entrant dans la cuisine, M. Germain, l'ancien maire, se décoiffe et il s'immobilise au milieu de la pièce, l'air embarrassé, pétrissant sa casquette de ses grosses mains rougies par le froid. Tu files chercher le père à l'écurie et il s'assoit de part et d'autre de la table tandis que tu leur verses un verre de vin. La soirée commence. Et vous, la mère et les filles, vous êtes assises en rond devant la cheminée, leur tournant le dos, tendues vers ce qui va se dire. Pendant une trentaine de minutes, M. Germain parle de choses et d'autres. Le père ne pipe mot, mais acquiesce parfois d'un bref mouvement de tête. Après un interminable silence, M. Germain se met à raconter qu'il profite de cette période de relatif beau temps pour couper des arbres avec son fils. Tout se passe bien, mais il lui faut avouer qu'aujourd'hui, là-haut, il reste encore de la neige et qu'ils n'ont pas pris garde à la limite. La borne n'était pas visible et d'ailleurs, il en est le premier ennuyé. Ils ont malencontreusement abattu trois sapins qui ne leur appartenaient pas. « Quoi ? » gémit le père. « Trois sapins à moi ?» L'homme s'empresse d'ajouter qu'il vient justement présenter ses excuses. Le père n'a aucun souci à avoir, il sera dédommagé. Mais furieux, le père ne veut rien entendre. Monsieur Germain répète ce qu'il vient de dire, explique que c'est une simple erreur, qu'il ne faut pas en faire une histoire, qu'ils vont s'arranger à l'amiable. mais il finit par comprendre qu'il parle en pure perte, qu'il ne réussira pas à l'amadouer. Alors il se lève, et sans avoir touché à son verre, dans un silence lourd, il prend la porte. Tu es bouleversé. Tu aurais voulu intervenir, mais si tu avais tenté d'arranger les choses, tu ne serais parvenu qu'à rendre le père encore plus furieux. Ici, c'est lui qui décide, commande, exige. Et vous, les femmes, il vous faut filer doux. Si contre toute attente, par exception, sous l'emprise d'une réaction incontrôlée, il vous arrivait de regimber, de protester, de ne plus vous montrer soumise, ce serait comme la foudre qui s'abattrait sur vos têtes. Et parce que vous vivez dans la hantise que cela ne se reproduise, vous veillez à ne jamais le contrarier. Ce soir-là, vous montez dans les chambres sans qu'aucune de vous ait osé prononcer un mot. Ta nuit est coupée de cauchemars. Le lendemain, dès qu'il t'est possible de t'échapper, tu cours chez M. Germain. Face à lui, tu ne peux retenir tes larmes. Alors son épouse te prend dans ses bras et elle te console. Tournent les saisons, passent les années. Tes rapports avec le père se sont compliqués. Tu t'emploies à donner entière satisfaction, travailles autant que tu le peux, mais il semble que ce ne soit jamais assez. Par un regard, une moue, un mot, il s'arrange pour marquer que tu aurais pu faire mieux, aller plus vite, t'y prendre autrement. Jamais il ne te remercie, ne t'encourage, ne te félicite. Chaque fois que tu achèves un travail, tu attends une parole qui prouverait qu'il est content de toi, qu'il apprécie ton sérieux, qu'il te sait gré de t'acharner à la tâche. Mais chaque fois, c'est la même déception. Tu t'appliques à cacher que tu souffres, mais tu te surprends à sourdement le détester. Tu n'as aucun souvenir qu'il t'ait un jour tenu sur ses genoux ou se soit occupé de toi, et souvent, il donne l'impression de ne pas vous voir, de ne pas savoir que vous existez. Il garde toujours les lèvres closes, et quand il ouvre la bouche, c'est pour commander ou te faire une réflexion désagréable. Un soir, découragé, comme tu te plains à la mère, elle t'apprend qu'il ne te pardonne pas d'être une fille. Il aurait voulu que le premier de ses enfants soit un garçon. Un garçon qui l'aurait épaulé plus efficacement, aurait porté le nom et repris la ferme. Tu ne peux t'empêcher de l'observer, de suivre chacun de ses gestes, de noter tout ce qu'il fait. Le voir, l'entendre manger est pour toi une épreuve. En sortant de table, il aspire bruyamment sa grosse et noire moustache qui garde des traces de vin, et ce bruit de succion te dégoûte. Mais ce qui est le plus insupportable, c'est de l'entendre parler de vos voisins ou de tel et tel habitant du village. Il ne sait que critiquer, dénigrer, déverser sa rancœur. Tu le détestes et tu te le reproches. De crainte que tu ne te trahisses ou qu'il n'en vienne à soupçonner tes sentiments, tu préviens ses désirs, t'empresses de lui obéir, travaille avec toujours plus d'acharnement. Souvent, tu rêves à celui qui sera ton mari et une évidence s'impose. Il ne devra en rien ressembler au père. Il n'aura chance de te rendre heureuse que s'il se montre attentif à ce que tu es, que s'il veille à te parler et t'écouter, que s'il te donne de l'affection et aussi un peu de tendresse. Mais au préalable, il lui faudra t'apprivoiser. Il n'y parviendra que s'il sait mettre fin à cette peur que t'inspirent les hommes. Ta soif de vivre et ta soif d'apprendre. Toutes deux violentes, insatiables. mais tu es prisonnière de ta famille et tu ne possèdes qu'un seul livre. Dès que tu as le loisir de grimper dans ta chambre et l'assurance qu'on ne te découvrira pas, tu ouvres la Bible et lis avidement. Parfois, dans un vieux cahier d'école précieusement conservé, tu notes à la hâte, craignant d'être surprise, un mot dont tu ignores la signification, ou bien encore une question qui t'a traversé l'esprit. Tu ne doutes pas qu'un jour tu auras la joie d'acquérir un dictionnaire et aussi bien d'autres livres, de ceux qui aident à mieux connaître les hommes et mieux comprendre la vie. Tu sais maintenant par cœur des pages entières de l'Ecclésiaste et du livre de Job, et lorsque tu es seul à garder les vaches ou à rateler un pré, tu te plais à les réciter. Tu trouves dans ces textes un peu de ta souffrance, de tes doutes, de tes brèves révoltes, de tes espoirs, et quand tu les relis, les médites, tu as l'impression qu'ils te révèlent à toi-même. Ta hantise est de mourir sans avoir vécu, sans avoir pu apaiser ta soif, sans avoir rencontré ce que tu ne saurais dire mais qui te fait si douloureusement défaut. Ces questions qui te tournent dans la tête, elles t'épuisent. Certains jours, il t'arrive que sans t'en rendre compte, tu t'interrompes de travailler saisi par l'une d'elles. Mais la réponse ne vient jamais. Et chaque fois, la déception que tu éprouves s'ajoute à ta désespérance, ta fatigue. Il est impossible que tu puisses avoir une vraie conversation avec l'une de tes sœurs. Elles sont pourtant gentilles. Une tendre affection vous unit, vous vous entendez fort bien, mais tu dois reconnaître qu'elles manquent de maturité. Quand le père est absent, elles sont gaies, insouciantes, et tu sens que tu ne peux les faire participer à ta vie intérieure. Il arrive que tu en sois déçu. À d'autres moments, tu t'en réjouis. En leur parlant, en t'ouvrant à elles de ce qui t'agite, tu craindrais de les charger d'un poids qu'elles n'ont pas à porter. Mais si au moins elles pouvaient savoir combien tu es malheureuse, combien tu es seule.
Ils sont de notre temps, conçus sous les outrages, nés dans le mauvais temps. Ils en ont le courage, arrachés à la laine du foyer de la couche. Ils travaillent sans haine et le cœur sur la bouche à l'immense chantier du grand rêve ouvrier, de l'international, les communistes. Les communistes, du soleil qui se lève au soleil qui se couche, de relève en relève, de supplice en cartouche, marchant de rêve en pire et de pire en meilleur, ils ont gravé leur rire sur les murs de la peur, marchant le poing levé, les yeux orduriers des marchands d'ouvriers. Les communistes, ils sont partis d'octobre en voyage d'amour, plus recouverts d'opprobre que de fleurs en retour. Ils ont donné leur sang et la fleur de leur âge pour faire à nos enfants un printemps sans nuages. Ils sont déjà trop loin dans l'histoire pour que rien ne puisse rien changer. Les communistes, moi des hommes comme ça, je les fais chevaliers du monde de demain. Ils m'ont tendu la main, moi des femmes comme ça, je les chante en collier, leur tresse de mes mains, l'herbe sur le chemin. Il faudra bien qu'un jour, coude à coude avec eux, on chausse les souliers des communistes. des communistes, des communistes, des communistes.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Charles-Juliette Lambeau. En été, le dimanche, quand tu peux disposer de ton après-midi, tu aimes à te rendre en haut de la côte, là où la route tourne à angle droit et arrive sur le plateau. Assise dans un pré, tu restes de longues heures à contempler le village et la combe. Tu observes les champs, les troupeaux, la rivière, les arbres. Joue à deviner, en repérant un toit, à qui appartient la maison qui l'abrite. Tu songes, tu rêves, te reposes, apprécie d'être loin de la famille, loin du regard policier du père. N'ayant plus à te réprimer, tu peux enfin être toute à toi, t'abandonner à ces questions qui t'assaillent. L'une d'elles, s'étant, se fait plus insistante et te jette en un profond trouble. Tu ne cesses de te demander pourquoi tu n'as pas de véritable ami. Pourquoi aucun garçon ne vient rôder autour de toi. Il est pourtant indéniable que tu es une belle fille, que tu as un visage avenant, que tu brûles, tu désires de partager ce que tu vis. Quand tu rencontres un garçon dans la rue du village, tu engages volontiers la conversation, plaisante, te taquine. Mais après avoir bavardé un instant avec lui, tu es déçu que l'échange tourne court. Pourquoi ? Pourquoi ne perçoit-il pas ton appel ? Pourquoi dois-tu être systématiquement renvoyé à ta solitude, à ces heures noires où tu tournes en rond sans pouvoir échapper à ce qui te ronge ? Tu prends plaisir à regarder le brin de cette terre fraîchement retournée près du cimetière, et ces mots qui se sont incrustés en toi la première fois où tu les as lus te reviennent à l'esprit. Pourquoi avez-vous labouré le mal ? Ici, dans le village, tu en es maintenant convaincu, le mal se nomme envie, jalousie. Les brouilles, les zizanies, les rancunes, les haines transmises de génération en génération. Toutes n'ayant à leur origine la plupart du temps que de pauvres, de dérisoires motifs. Une nuit, par exemple, une vache, échappée d'un enclos, a mangé et piétiné une vingtaine de betteraves dans le champ du voisin. Une autre fois, un malotru a traversé un pré dont l'herbe était haute, avec ses bœufs attelés à une faucheuse. Ou un grand-père a déplacé les bornes d'un champ dans le désir d'effacer l'affront subi, le jour où le cousin avait refusé de prêter son tombereau. Ou bien encore, une lointaine et minable histoire d'héritage. Il ne s'agissait que de quelques outils à se partager. A fait de deux frères des ennemis et les descendants n'ont jamais cherché à se réconcilier. Chaque fois, après l'incident initial, les imaginations s'étaient échauffées, avaient déliré, attribué les pires intentions à celui ou ceux dont tout semblait prouver qu'il nourrissait les plus noirs desseins, qu'il n'attendait qu'une occasion pour régler les comptes et se venger. Ces jalousies t'étonnent. À une ou deux exceptions près, les propriétés et les troupeaux sont de valeur équivalente, et tu ne saisis pas pourquoi un tel en vient à détester tel autre qui n'est pas mieux loti que lui et à qui il n'a quasiment rien à reprocher. Ces discordes, ces inimitiés, ces gens qui refusent de se parler, tu en as honte. Tu voudrais les oublier. Mais ta pensée en est obsédée. Il est vrai toutefois que tu serais sans doute moins affecté par cet état de choses si ton père n'était un de ceux qui contribuent à créer ce climat de défiance et de chicane. Pour compenser, tenter d'améliorer ce qui peut l'être et aussi t'opposer au père, tu prends le contre-pied de son attitude. N'hésite pas à faire des avances aux personnes qu'il affecte d'ignorer. Oui, tu as honte en permanence. Honte que les hommes soient si mesquins, si prompts à se déchirer, si peu enclins à préférer la concorde à la brouille. Et à l'idée que tu es constitué de la même pâte qu'eux, tu es empli d'effroi. La gravité de ton regard, un regard doux et ardent qui ne se détourne jamais, figé par la stupeur où te jette l'étrangeté de ce sur quoi il s'attarde. Un regard qui palpe et interroge, sonde et caresse, pénètre et étreint, cherche à savoir qui est l'autre, ce qu'il pense, comment il endure la vie. La gravité de ton regard gêne, dérange, impressionne. Et c'est elle qui, pour une grande part, creuse autour de toi cette solitude dans laquelle tu t'enfonces chaque jour un peu plus. L'existence ne présente pas grand intérêt lorsqu'on n'a pour but que soi-même. Tu aimerais te dévouer, entrer au service d'une collectivité, faire du bien aux autres. Mais le père s'oppose à ce que ses filles quittent la ferme. Ton avenir te préoccupe. Dès que la chose s'avérera possible, tu voudrais t'échapper et te fixer dans une ville, avant tout pour te donner les moyens de t'instruire. Pour t'instruire tout en travaillant et profiter des multiples avantages qu'offre une ville. Aller au théâtre, fréquenter des gens intéressants, voir des vitrines, danser, vivre dans de meilleures conditions. En ce dimanche de juin, tu te promènes sur ce chemin qui traverse le fond de la Combe et en s'élevant conduit à H, une petite ville proche connue pour ses sanatoriums. Trois filles du village sont employées dans l'un d'eux et tu souhaiterais un jour pouvoir te joindre à elles. Dans un premier temps, cela te donnerait l'occasion de quitter la ferme. Tu n'ignores pas pourtant que lorsqu'on mentionne le nom de cette ville, c'est en baissant la voix. H reçoit de nombreux malades et la tuberculose fait peur. On ne sait comment la combattre et elle continue de tuer. Là-haut, venus pour se soigner, des malheureux sont vaincus par la maladie et les jeunes ne sont pas épargnés. De surcroît, on sous-entend que c'est une ville de perdition. Des hommes et des femmes restent là à attendre la guérison pendant des mois, parfois des années. Inoccupés, privés de divertissement, coupés de leur famille, nombre d'entre eux cherchent l'aventure, vivent des amours illicites. Se sachant condamnés, certains sont pris d'un frénétique désir de vivre et lâchent les amarres. Des rumeurs circulent. On raconte que ces malades sont des dépravés. Ils perdent tout sens moral et se livrent au pire excès. Mais toi qui es encore passablement ignorante de la vie, qu'irais-tu faire en ce lieu d'infamie? Et des deux dangers auxquels tu te trouverais exposé, lequel serait le plus à craindre? Te savoir tuberculeuse? Ou sombrer dans la débauche? Tu aimes ces journées du début d'été. Le soleil brille, mais le fond de l'air reste frais et la chaleur est agréable. Tu t'arrêtes là où commence la forêt de sapins et t'assieds sur un des troncs couchés le long du chemin. Hormis le chant des oiseaux et le gargouillis d'un filet d'eau qui coule un peu plus loin, il règne ici un profond silence. Et tu savoures ces instants de solitude. Tu n'étais jamais arrivé jusque-là et tu découvres cet endroit. Il y a quelque chose de secret, de sauvage. Et tu te sens vaguement inquiète. Tu laisses ton regard errer, monter le long des hauts fûts qui se dressent au-dessus de toi, et tu prends plaisir à te laisser pénétrer par ce qui t'entoure. En cette période de l'année, les arbres ont mis leurs feuilles. Elles luisent, ont la fraîcheur de ce qui vient de naître, et tu perçois cette prodigieuse vitalité de la nature, t'émerveilles de ce qu'à chaque retour du printemps, la sève s'éveille à nouveau en chaque plante, en chaque arbre. D'ailleurs, toi aussi, tu sens dans ton jeune corps un afflux de forces nouvelles et tu songes à celui qui bientôt te prendra dans ses bras, te fera découvrir l'amour, basculer dans un autre monde. Plus tard, tu auras 2 enfants et si ton mari en est d'accord, le garçon se prénommera Florian, la petite Geneviève. Des arbres qui s'offrent à ton regard, tu te demandes celui qui a ta préférence, celui en qui tu pourrais voir comme une image de ce que tu es. Il y a là des chênes, des hêtres, des bouleaux, des sapins, des frênes, des trembles. Tu connais fort bien ces différentes essences, et après examen, ton choix se fixe sur ce bouleau qui s'élève dans un espace dégagé en contrebas du chemin. La robustesse, la remarquable blancheur de son tronc et ses branches graciles aux extrémités retombantes avec au sommet ses quelques frêles feuilles qui frissonnent, tu te reconnais dans le jet puissant de son tronc et tout autant dans ce feuillage peu fourni, sensible au moindre souffle et qui donne une telle impression de légèreté. Ainsi avoir de profondes racines, être forte, mais forte sans lourdeur, en demeurant capable de frémir, de répondre à tout appel, de faire bon accueil à ces détresses que la vie ne manquera pas de pousser à ta rencontre. Tu ne l'as pas entendu arriver. Prise de frayeur, tu te dresses à l'évidence. Ce n'est pas un paysan. Il poursuit son chemin, te saluant d'un mouvement de tête, non moins gêné que toi. Tu te rassieds, il se retourne, croise ton regard, a un sourire embarrassé, puis vient te demander où mène ce chemin. Après un instant, il est assis près de toi, mais a du mal à engager la conversation, et ses paroles sont entrecoupées de longs silences. Il est vrai que tu ne l'aides guère et te contentes d'écouter. Tu n'oses le regarder. Mais tu as remarqué sa pâleur et tu notes que tu n'as jamais vu des mains d'homme aussi fines, aussi blanches. Voilà donc pour ce soir la suite de ce récit de Charles-Juliette Lambeau que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.